Salut à tous, bienvenue pour On se dit des choses, le podcast des sports de la République et l'éclair des Pyrénées. Bienvenue pour ce nouvel épisode. On est tous là pour vous, Vincent Martinelli pour vous servir. Autour de moi, pour commencer, le chantre de la bienveillance dans ce département, c'est Greg Letor. Salut Greg.
Bonjour les petits coquins.
Celui qui relève les mêlées tous les dimanches matins, mais en football à 7, c'est Jérôme Carrère. Salut Jérôme.
Oui, salut. Brandon n'est pas dans la cuisine, il est à la meilleure.
C'est parfait. La féminine de peau, c'est elle, c'est Anne Pouchant. Salut Anne.
Et salut Vincent, salut à tous, bonjour Robert, et bonjour Assoul.
Et enfin, l'homme par qui les Mauges se sont soumises, c'est Jean Fauré. Salut Jean.
Salut.
On va commencer par toi Jean, tu vois, comme t'es du genre bavard aujourd'hui, je le sens bien. On va parler basket, on va revenir sur l'actu de cette semaine et cet élan béarnais qu'on a vu samedi dans la défaite au Palais Contrebourg et qui a réagi dès la manche suivante à Cholet. Une réaction vraiment serrée comme un string, mais ça passe en fait.
Oui, ça passe un partout après deux matchs. On va dire que les compteurs sont relativement à jour. Alors certes, c'est pas passé loin face à Bourg, mais l'élan a montré trop de lacunes collectives. Ils se sont fait dominer au rebond, ils ont perdu des ballons. Certains joueurs majeurs qui sont passés un petit peu à côté. Malgré tout, ils sont à moins 1 à 1 minute 30 de la fin. Ça aurait pu basculer de leur côté. Bourg, malgré les absences, a fait la différence sur la fin. Ça a laissé des regrets, de la frustration. Frustration qui donc a été évacuée à Cholet. Un match... pas encore très propre, mais l'élan a quand même nettement dominé. Ils sont à plus 10 juste avant la mi-temps. Ils se font un petit peu rattraper. Ils font un petit peu l'accordéon. Et puis patatras, on pense qu'ils l'ont perdu sur la fin après une grosse série à 3 points de Hog. Et on peut dire que l'élan a fait preuve de caractère et le talent a fait la différence sur la fin avec les shoots d'Archie et puis surtout le shoot à 4 secondes de la fin de Brandon à 3 points.
Et autre bonne nouvelle qui me vient comme ça, c'est qu'ils arrivent à gagner avec un Chicoco dans la boîte à gants, parce que donc il a quasiment pas joué, beaucoup de fautes. Ouais, mais même sans lui, ils y arrivent.
Oui, des gens qu'avec lui, ils arrivent à prendre 12 points d'avance. Il était bon en première mi-temps, il était bien servi. Sur transition, c'était pas mal. Et puis trois fautes, quatrième et cinquième en deuxième mi-temps, très vite. Il a joué, je crois, une 30 en deuxième mi-temps. Forcément sans Chicoco ça change le décor. Il a été bien suppléé par Amadi Ndiaye, mais dans un registre différent. Alors c'est sûr, gagner sans Chicoco avec un Jérémy Leloup qui passe quand même à côté pour la deuxième fois d'affilée, un Gérald Ayayi trop timide, enfin il y a beaucoup de joueurs qui sont pas encore là, et malgré tout ça gagne, donc ça c'est le motif d'espoir pour la suite, ouais.
Avec donc un co-leader qui arrive au Palais ce samedi, donc Chalon Reims, c'est le co-leader surprise de
Jean Champagne, s'il vous plaît. Oui, Chalon-Reims, co-leader surprise. Chalon-Reims. Oui, un co-leader, on va dire, un petit peu de circonstances. Ils ont joué Fos-sur-Mer, qui finira 18e, je l'annonce aujourd'hui. Ils auront 30 chez eux le vendredi. Ils ont joué Rouen mardi soir à domicile, Rouen qui finira 15e ou 16e. Donc ils ont battu, c'est très bien, ils ont marqué 108 points. Ils se sont fait plaisir, ça joue bien, ils sont à plus 50 au point d'avérage. C'est une équipe qui a fait une préparation dégueulasse, Chalon-Reims, mais qui s'est retrouvée vraiment à la surprise générale et à celle de son coach dès le début du championnat. L'euphorie s'est installée, ils n'ont rien à perdre au Palais. Ils étaient venus s'amuser l'an dernier, ils avaient dansé sur le parquet du Palais gentiment. Je crois que c'était la der de Laurent Villa, je ne vais pas dire de bêtises, ou l'avant-dernière. Il y a eu 25 ou 30 points à l'arrivée. Voilà, pour les Palois, finalement, c'est pas mal de jouer entre guillemets le co-leader ou le leader du championnat. Ça va les mobiliser, puisque Eric Bartoszewski, lui, par contre, il ne voit que le négatif et il n'est pas content.
Ouais, il est un peu fumasse.
Ouais, très fumasse.
Il veut vraiment que cette saison se lance. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. C'est sûr, on passe de la verticalité à la verticalité. Greg, sur le football, là, on va commencer par le foot. Un petit retour sur le week-end dernier. Ce Pau FC qu'on ne voit pas se sortir de l'ornière. Défaite 2-0 à Grenoble.
Ouais,
ça s'installe, la morosité s'installe.
Ça s'installe, on était sur une série de 6 matchs sans défaite. Et c'est devenu vraiment une série de 4 matchs sans victoire, de 2 défaites d'affilée. Voilà, Grenoble, il n'y a pas vraiment eu de mieux. Il y a même eu des signaux plutôt inquiétants pour Didier Tolo, qui a eu le sentiment de voir une équipe se satisfaire de ce qu'elle a. 15 points, c'est vrai qu'après 11 journées, ils auraient signé la saison dernière pour en arriver là. Mais c'est le problème, c'est que si ça leur va, en tout cas, ça ne va pas à Didier Tolo.
Oui, parce qu'on l'a vu cette semaine dans nos colonnes. Vous allez nous dire un peu comment ça s'est passé, vous l'aviez en face. On disait qu'Eric Bartoszewski était fumasse. Mais Didier, l'ami Didier Tolo aussi, était particulièrement remonté. Il les a un peu secoués, mine de rien, ces joueurs.
Ouais, ouais, il a pas voulu. Alors, il veut pas se retrancher derrière l'effectif qui, en nombre, n'est pas immense par rapport aux autres équipes de Ligue 2. Il a pas voulu se retrancher sur une éventuelle fatigue, sur des blessés. Non, lui, c'est vraiment ce qu'il a ciblé. C'est l'état d'esprit de ses joueurs. Alors, le slogan du club, c'est à bloc. Et il a eu l'impression que ses joueurs étaient moins à bloc ces derniers temps, moins compétiteurs sur les entraînements, des attitudes un petit peu laxiste en match, et qui se voit notamment sur les stats défensives, avec 3 matchs d'affilée à 2 buts encaissés pour une équipe qui était au début de l'automne deuxième défense de Ligue 2. Ça commence à le crisper un petit peu. Donc il y a une explication de texte. Il y a une semaine de trêve, mais un match amical contre le TFC. Donc je pense qu'il va falloir que ces joueurs répondent un petit peu par rapport à ces attentes.
Ce vendredi à Tarbes, c'est ça, hein?
Ce vendredi à Tarbes.
Avec l'intégration qui va se poursuivre pour le dernier arrivant en date. Ce fameux attaquant qu'on nous attendait depuis
Zakaria Naidi
des semaines, et qui enfin est à pied d'œuvre. On l'a vu un peu à Grenoble.
Il a eu une quarantaine obligatoire. Il est rentré à la mi-temps contre Grenoble, et bon, il est voué à avoir de plus en plus de temps de jeu. C'est une occasion idéale, ce match amical contre le TFC, pour en prendre et postuler à une place de titulaire. Il a terminé sa saison assez tard avec le championnat algérien mi-août. Physiquement, il est prêt, il a futé. Sur les entraînements, sur les retours, en tout cas, il a montré beaucoup de qualité. Donc, il va falloir convertir ça un petit peu maintenant en match. C'est un joueur qui a été meilleur buteur du championnat d'Algérie, qui a déjà eu une expérience en Europe, au Portugal, à Gil Vicente. 20 matchs, 1 but, 3 passes décisives. Il va falloir qu'il ait appris de cette expérience-là.
Vous avez compulsé les stats du championnat portugais, et ça c'est pas rien.
Cette
émission, il y a du fond derrière. Dernière question pour FC. Il y a, on l'avait dit en début de saison, un effectif resserré. Il voulait délibérément un effectif resserré, Didier Tolo. Malgré tout, est-ce que quelques joueurs peuvent s'attendre à laisser la place à la rotation? Il y a des joueurs déjà un petit peu menacés là?
On peut penser aux attaquants qui ont quand même beaucoup raté ces derniers temps. À 6 fois, qui était pourtant le meilleur buteur du Pau FC. On a par exemple fait les frais à Grenoble de son match délicat contre Dunkerque. Avec l'arrivée de Zakar Naidi, c'est sûr qu'il va avoir une concurrence un petit peu plus intense devant, sachant que lui a déjà, au Portugal notamment, joué sur les côtés aussi. Donc il va y avoir des rotations supplémentaires. Il y a l'intégration de Nisic aussi qui se fait crescendo. On a vu qu'il était en milieu de terrain et que ça a décalé Steve Besnard. Donc il va y avoir une concurrence plus intense. On peut penser aussi à David Gomis, qui avec la Guinée-Bissau est parti pour un trêve disputer un match, bon, qui s'est mal passé pendant le match contre le Maroc, puisqu'ils ont perdu 5-0, et puis avant le match, puisqu'ils ont été victimes d'une intoxication alimentaire.
Oui, ce que j'allais dire, c'est surtout une intoxication alimentaire.
Je pense que c'est surtout l'avant-match qui
son petit péril.
Ça peut être très agréable.
Ça laissera de beaux souvenirs. Bonne humeur toujours, parce que c'est quand même le principe de cette émission, et défaite toujours, Anne, pour le billard handball. Ouais, c'est comme ça, moi je fais des passes très sympas. Le BHB qui reste sur une défaite, encore une fois, c'est cruel hein, pour eux. Hein. Un petit but, ouais. Chez un gros... dur de garder le moral quand même.
C'est ça, et c'est surtout que ça fait 2 défaites d'affilée chez le deuxième gros d'affilée. Le premier c'était Ponto, alors non c'était...
C'était au Sporting, oui. Mais après donc à Tremblay
Ponto, d'un point, et contre Tremblay vendredi dernier d'un but également. Pardon. Et donc 2 défaites très frustrantes, puisque Billard avait la victoire au bout des doigts. Et en fait, il patine un petit peu dans le money time, il le gère mal. Ce qui a été analysé à la vidéo derrière par l'entraîneur Daniel Deherme, c'est notamment que sur ces fins de match serrées comme ça, chacun prend le match un petit peu à son compte, chacun veut aller sauver la patrie, et au final ils perdent leur force collective, et donc 2 défaites de rang, ce qui ramène Billard à une 7e place au classement. À ce moment de la saison, c'est pas très parlant, mais disons qu'ils avaient bien démarré avec 2 victoires de rang. Là ils se retrouvent donc avec 2 victoires de défaite, et ils enchaînent chez un 3e gros concurrent, Massy, qui est deuxième actuellement, qui a battu Tremblay, qui a battu Ivry, qui a battu Caen. Mais Massy qui s'est cassé la figure aussi la semaine dernière, donc à Strasbourg.
Comment on en sort, comment on en sort?
Alors, comment on en sort? Alors, sachant que le billet a battu Strasbourg également, comment on en sort? Le coach a trouvé une solution, à savoir qu'au lieu de considérer Massy comme un gros adversaire, comme Ponto ou Tremblay, il les met au rang d'adversaire à notre portée. Je pense que ce discours-là doit aider un petit peu les joueurs à prendre le match, à aborder le match autrement. Bon, après, de fait, Massy, c'est quand même costaud. Sur les dernières saisons, depuis 2016, ils n'ont pas quitté le top 6 et donc les playoffs. Ils ont même fait une saison en Star League en 2017-2018. Ils ont de très beaux joueurs, notamment un arrière gauche qui vient d'être élu joueur du mois de septembre, avec notamment 10 réalisations, 10 buts lors du match contre Tremblay. Voilà, y a
donc
du...
ils seront contents d'entendre que c'est une équipe comme les autres. J'espère
ouais,
qu'on
voilà.
a beaucoup d'auditeurs à Massy.
Mais donc, l'objectif affiché par Daniel Deherme, c'est les trois prochains matchs, on les gagne. Donc les trois prochains, c'est ce samedi à Massy, ensuite il y aura la réception de Valence, et ensuite un déplacement à Villeurbanne.
Début du challenge, donc ce samedi, contrairement aux habitudes des Billarois, c'est pas vendredi, ce sera samedi soir à Massy. Finalement, il n'y en a qu'un qui est heureux ici, qui est Prime Sautier, qui revient des Mégirales avec la banane. C'est l'ami Jérôme. Vous étiez avec la section paloise là, donc samedi dernier à l'USAP. Une victoire paloise que certains avaient pronostiquée autour de ce studio. Vous l'avez vécu en vrai. Le mieux, c'est quand la section joue à 14. On l'a dit sur le tour de la blague cette saison.
C'est
la deuxième
ça.
Fois que ça leur arrive. Deuxième carton rouge. Ils jouent presque une heure à 14 contre 15 et ça gagne donc, finalement.
On leur a posé la question. Bon, vous vous doutez bien, ils se sont dit c'est quand même un peu mieux à 15. Effectivement, c'est sûr que ben, ça fait deux fois que ça se reproduit. C'est contre Lyon ou Hameau la première fois où Tajitaji Valou avait été exclu dès la 25e minute. Cette fois-ci, c'est Tumaba qui a mis un joli tampon à Tristan Teder qu'on a pu voir après le match, qui était bien marqué quand même, hein, au niveau de l'arcade, etc. Donc il passera en commission de discipline la semaine prochaine. Donc ça peut aussi coûter un petit peu cher à la section parce qu'on sait que c'est un peu le facteur X de cette équipe. Mais sans lui, les Palois ont réussi à bien se resserrer et honnêtement, on livrait une deuxième période de feu, enfin vraiment très, très maîtrisée. Alors, il faut relativiser un peu parce que Perpignan, je pense qu'ils vont quand même avoir du mal cette saison. J'irai pas jusqu'à,
ouais, ce que j'allais dire, comme
jusqu'à faire des pronostics à l'agent et dire ils vont être 14e, mais je pense quand même qu'ils
sont 14e.
Ils seront peut-être 13e, mais qu'ils seront clairement dans le dur. Et c'est vrai qu'eux aussi, ils ont un peu joué à l'envers, mais honnêtement, la section a pris les choses vraiment dans le bon sens. Et pour une fois, n'a pas paniqué, ce qu'on avait pu voir un peu à Brive, où ils étaient partis un peu dans tous les sens. Là, non, dans le siège d'une charnière, le Bayastoy qui a été au top après être passé complètement au travers en Corrèze. Là, ils sont bien rattrapés. Et donc, la section aujourd'hui, elle se retrouve avec déjà 13 points en poche après,
dans le top 7.
Après
dans
5
le top
matchs. 8. Voilà.
Donc, mais ce qui est un peu, énervant, c'est qu'ils ont besoin de se prendre une baffe pour justement mettre ces choses en place. Parce que le début de match, les 25 premières minutes, c'était crépi de faute, de pénalité.
Oui, alors les 25 premières minutes, c'était clairement crépi de faute, effectivement. Donc Martin Puech nous en a parlé, il a dit, on s'attendait, on arrive à Aimé Giral, c'est vrai que les types, ils étaient tous fous, c'était des lions, quoi. C'était la fosse aux lions, clairement. Bon, là, le col a coulé un peu à flot, c'était sympa. Il faisait beau.
Vous parlez des tribunes.
Oui, évidemment. Évidemment, en tribune, moi, je suis resté sobre.
Non, moi, je pensais aux joueurs.
Et aux joueurs aussi. Mais en tout cas, voilà, en tribune, c'était la fête. Donc, bon, évidemment, ils sont rentrés dans le match, ils étaient bien remontés, les Catalans. Mm-hmm. Donc, les Palois ont subi, mais ils ont réussi, comme l'a dit Martin Puech, justement, à rester quand même assez intelligent les fautes qu'ils ont fait, dans le sens où ils n'ont pas non plus donné trop de points quand même aux Perpignanais.
Je connaissais pas le concept de la
faute. La faute intelligente, ouais, faute, ouais, voilà. Et ils sont pas tombés, comme il a dit, dans l'excès de fautes comme il y a pu avoir à Brive, où ils ont enchaîné 3-4 pénalités mm-hmm. et ils ont permis aux brivistes de marquer des essais. Là, ils sont quand même restés, ils ont réussi à garder un certain seuil tolérable, on va dire. Et ensuite, à partir du carton rouge de Tumaba, une seule faute jusqu'à la fin du match. Donc vraiment, ça a été le gros déclic pour que cette équipe se mette en route. Et ce qu'on peut se poser comme question, c'est vrai, c'est est-ce qu'il leur faut pas toujours un peu des baffes pour se remettre un peu dans le bon chemin? On va voir ça.
C'est ce que j'allais dire, parce que ça tombe bien. Il y a ce qu'on appelle un révélateur ce samedi. Et ce coup-ci, comme vous êtes sympa, vous laissez Greg y aller, Jérôme. Parce
oui,
que
il a des copains à Toulouse. Hein. Il va regarder le match depuis le jacuzzi, paraît-il.
Il a la double dit. Ouais, il a... depuis le jacuzzi bord de pelouse. Greg, Stade Toulousain, section paloise. Là, franchement, on va pas se mentir, c'est l'affiche qui fait peur. Mais la section ayant gagné à Perpignan, qui s'est mise bien au classement, finalement zéro pression.
Non, il n'y a pas de. Effectivement, ils peuvent se permettre un petit joker. Et puis, étant donné que Toulouse bat à peu près tout le monde de n'importe quelle façon, et le finaliste du championnat de France, La Rochelle, La semaine dernière, c'était Biarritz avec une grande partie du match avec les, on va dire, l'équipe B du Stade Toulousain. Donc c'est une occasion de se faire plaisir et d'envoyer au front quelques joueurs qui ont tout à gagner.
C'est risqué aussi, hein. Ça peut laisser de mauvais souvenirs, de larges statistiques pour l'attaque adverse. Il faut tout lâcher quand même.
C'est ceux qui auront la chance de jouer Ernest Vallon auront tout intérêt à montrer qu'ils sont à la hauteur du défi, parce que c'est la suite de la saison de leur saison qui va en partie se jouer. C'est des chances comme ça, on n'en a pas 50 quand on n'est pas forcément du 15 majeur. Moi, je vois plutôt une opportunité pour gagner des points dans un contexte libéré. Si le travail collectif a été bien fait depuis le début de la saison, on peut penser que c'est des joueurs qui seront au niveau athlétiquement, rugbystiquement, puisqu'il y a eu des plages de développement individuel. Donc c'est presque là, à la limite, qu'on va voir un autre plan du volet de développement de Sébastien Piccheroni.
Et puis surtout l'an dernier, ils sont partis avec une équipe quasiment type ou les plus forts. Ils ont donc quand même pris 40 dans la musette, entre 35 et 40. Donc finalement, je ne sais pas si à Toulouse, on peut faire des projections et des prédictions sur on envoie la grosse équipe, on risque moins. Je crois que si Toulouse est bien luné, de toute façon, n'importe qui prend
cher.
La fessée est chère. Donc je suis d'accord avec Greg, je pense que c'est l'occasion pour certains de se montrer. Et cette année où ça tourne quand même pas mal, de montrer aussi qu'ils peuvent avoir leur place dans le groupe des 23 les week-ends suivants. Comme c'est un peu la philosophie qui est pour l'instant mise en avant, on verra si ça dure. Ce qui est certain, c'est que la section, il faudra surtout la juger à l'entrée de l'hiver, puisque ces dernières saisons, c'est déjà arrivé qu'elle commence 3 victoires sur les 5 premiers matchs. C'est pas totalement inédit pour elle. En général, ça déraille à partir du mois de novembre, donc on va voir cette année comment ça se passe.
Quand la belle pelouse du hameau déraille aussi, généralement. Mais là aussi, c'est un peu comme le carton rouge, elle a pris de l'avance. Donc ça pourrait le faire, finalement. Question effectif, on imagine mal Sébastien Piccheroni, adepte de détails et de data, renvoyer les mêmes garçons au feu. Là aussi, il risque d'y avoir des visages qu'on voit pas très souvent. Est-ce qu'on sait déjà à peu près qui aura son ticket sur ce match-là?
Ça sera la révélation demain matin à l'entraînement de la mise en place. Après, il y a plusieurs.
Ouais, comme on a truffé au débois de micro, on a déjà une petite idée.
Il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas joué depuis le début de la saison en top 14, mais qui ont pris part aux matchs amicaux, dont on peut imaginer qu'ils soient dans le groupe. On peut penser à l'arrière Thomas Carroll, on peut penser à la présence dans le groupe du demi de mêlée Alexis Levron, qu'on a vu sur ces matchs de préparation contre l'UBB et Bayonne. Il y a des joueurs qui ont eu le...
Qui étaient très bons à 7 aussi.
Qui ont eu très bons à 7. On peut penser à Rin Barca, à Thibaut Amonou, donc ils vont avoir l'occasion là, de se montrer. Il y aura peut-être des retours de blessures aussi. On sait qu'Alexandre Dumoulin, qui avait été hospitalisé après une plaie à une jambe, a repris l'entraînement très sérieusement depuis 2 semaines. Donc c'est une belle occasion aussi, ici, il y a la jeunesse qui est envoyée au feu, de pouvoir s'appuyer aussi sur un joueur expérimenté. Comme lui, ça va être une équipe un petit peu mixte, mais ça peut être un joli défi. L'an dernier, ils avaient envoyé la grande équipe, ils avaient affirmé vouloir réaliser quelque chose à Toulouse. Alors ça, à Toulouse, il faut pas leur dire, ils avaient été très vexés. Ils avaient pris en cours de bâton. Comment ça, vous voulez gagner chez nous? Donc là, a priori, ils diront rien, ils s'avanceront avec une équipe.
Maxime Médard avait été un peu
secrète.
Avait été un peu chambreur après le match.
Donc si
en même temps, c'est pénible avec Toulouse, on leur dit rien, ils vous en mettent 40, on leur dit ils en mettent 50.
Ça sera peut-être l'occasion aussi pour Zach Henry de souffler, puisque c'est un de ceux qui a joué tous les matchs depuis le début de la saison.
Aussi.
Donc on verra certainement de nouveaux visages.
Thibaut de Baes aussi, non? Peut-être.
Thibaut de Baes qui a joué avec les Espoirs à la fois 9, à la fois 10, donc on peut imaginer une polyvalence 9-10. Pour ce déplacement.
Même pas un petit mot, Jean, pour énerver un peu les Toulousains, non?
Parce que... Pour énerver les Toulousains, non. Moi, ce que je retiens, zéro pression, zéro point pour la section. Voilà, beaucoup de longs discours, mais on arrive tous à la même finalité.
Et
je crois
combien de sièges à la fin de la saison?
La section?
Non, le Stade Toulousain.
Le Stade Toulousain.
Ouais. Tout nous a fait fausse et tout ça. Ça tombe bien, c'est l'heure des pronostics. La semaine dernière, donc il y avait quelques bonnes touches.
Grand chelem, j'ai envie de vous dire.
Pour le derrière du vélo, on ne peut pas.
Tu nous avais pas pronostiqué Paris-Roubaix, donc ça compte pas comme un grand chelem, je suis désolé. Cette semaine, on relance tout ça. Il y a donc 3 matchs, vu que le Pau FC fait relâche. Pas l'honneur, l'injure, pardon, de vouloir pronostiquer sur l'équipe de France qui joue ce soir. Bref, le rugby, le basket et le handball à Massy. En avant, feu.
Je sens une révolte du BHP qui s'imposera d'un petit but contre Massy. Je sens un exploit de la section paloise qui s'imposera d'un petit point sur le terrain du Stade Toulousain. C'est la grosse cote, mais je l'attends. Et l'élan béarnais qui a trouvé la sortie à Châlons s'imposera aussi ce week-end.
Nom de bleu. En voilà trois d'un coup. Trois à la suite. On dirait du Julien Lepers, presque. Jérôme. Ouais.
Qu'est-ce qu'il est bienveillant.
Ouais, c'est vrai qu'il est très bienveillant. Ce salon, tu aurais dû l'animer, Greg. Alors, qu'est-ce que je vois ? Non, je pense quand même que la section à Toulouse, ça va être... Non, ça va pas être possible, surtout après ce qu'a dit Greg, ça va énerver Maxime Médard qui va mettre un triplé. Alors, je pense que ça va être une défaite du style 30 à 20, un truc comme ça. Pas trop large, quand même. Pour ce qui est du BHB, j'ai peur que le concept de dire Massy, c'est une équipe normale, n'énerve un peu les amis de Massy.
Les Massy quoi ?
Massy quoi ?
Ouais, on n'est pas obligé de leur dire.
On n'est pas obligé de leur dire. Okay. Bon, mais quand même une défaite, hein, malheureusement, de 3 buts. Et enfin, l'élan. Dans l'élan, je vais quand même miser sur une victoire. Victoire un petit plus 8.
Voilà, un peu de précision. Anne, c'est à toi.
Moi, je miserai sur une grosse défaite de la section paloise à Toulouse. Malheureusement, avec le bonus offensif. Merci.
Il y a toujours un bonus quand t'annonces.
Ouais. Je vais quand même miser sur une victoire de Bière, je leur souhaite de tout cœur, et sur une victoire de l'élan béarnais. Parce que je vais aller les voir jouer, donc c'est intérêt.
Tu feras pas des
places.
Ah oui, effectivement, ça
change
tout.
Que les tifons seront bons.
D'accord, je vais envoyer un texto à Eric Bartécheki pour lui dire quand Pouchon est dans les tribunes. Donc, victoire de l'élan, ça c'est clair. De toute façon, ils n'ont pas le choix. S'ils battent pas Charles-Laurens à la maison, même Charles-Laurens cas de victoire, je pense que ça met quand même une belle estafilade à leurs objectifs à venir, sachant que derrière Strasbourg, Monaco, Le Mans, enfin bon, dans le mauvais ordre, mais c'est ça qui est à venir. Donc il faut absolument qu'ils battent Charles-Laurens.
Les proprios encore.
Les proprios, non, ils sont plus là. Non, ils sont contents, ils sont rentrés à Seattle. Mais ils seront là derrière leur petit écran pour regarder LNBTV et sa caméra fixe.
Ils n'ont pas sport en France à Seattle ? Ils n'ont pas sport en France à Seattle ?
Non, ils ont États-Unis en sport en États-Unis. C'est ça. Ils n'ont pas sport en France, mais le match n'est pas sur sport en France. La section va perdre. Oui, un match dégueulasse du Stade Toulousain qui sera suffisant pour battre la section sans un gros écart. Je pense que ce ne sera pas un gros écart. Et le BHB, ouais, moi j'y crois au BHB à Massy. Je sais pas, Massy BHB, ça sonne bien. Ouais, non, ils vont gagner. Ils vont se remobiliser et gagner de 2-3 buts.
Et voilà, c'est sur ce petit message d'espoir. Et là aussi, j'ai envie de dire, bienveillant.
Et de bienveillance.
Et de bienveillance.
Et j'en profite pour saluer Jean-Aimé Toupane, le nouvel entraîneur de l'équipe de France féminine de basket.
Et qui sera peut-être à Pau la semaine prochaine pour l'AG de la Fédération française.
Ah bon ?
Un sélectionneur qui serait là à l'AG, ce serait pas choquant. Peut-être qu'on aura un beau plateau. Mais je m'égare. moi, je vous souhaite, je pronostique un week-end de bleu. Et plein de bienveillance aussi. Je vous dis à très vite pour la suite des aventures et le débrief des pronos et de nouveaux matchs. Bonne fin de semaine, bon match à toutes et à tous. Et à très vite. Ciao, ciao.